Nous sommes le 16 juin 2024 et nous en sommes à la dernière journée intensive avant la pause d'été au Centre Zen de Montréal. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter un texte de Jeff Shore. Dans ce texte, quelqu'un lui demande « J'ai au fond de mon esprit l'idée qu'après l'éveil, tous nos problèmes psychologiques sont résolus. Est-ce exact ou n'est-ce qu'une autre illusion? Dans quelle mesure l'éveil à notre vraie nature, qui est la plus grande promesse du Zen, dans quelle mesure l'éveil permet-il d'apaiser les difficultés psychologiques que nous rencontrons dans notre vie quotidienne? Il n'est pas rare lors des ateliers d'introduction que nous tenons au Centre Zen de Montréal de rencontrer des personnes qui viennent au Zen avec cet espoir. L'espoir que le Zen leur permettra de surmonter une fois pour toutes leurs difficultés psychologiques. Est-ce exact ou n'est-ce qu'une autre illusion? Mais avant d'aller plus loin, parlons un peu de Jeff et de son parcours dans le Zen. Comme vous le savez sans doute, Jeff Shore a animé 4 retraites au Centre Zen de Montréal au cours des dernières années. De 2018 à 2023, il a aidé notre communauté à traverser la longue période de deuil qui a suivi le décès de M. Lowe en janvier 2016. Il nous a aussi accompagnés via nos activités en ligne tout au long de la pandémie. Et c'est lui qui nous a encouragés, Jean-Luc et moi, à offrir des rencontres en one-on-one, à présenter des mots d'accompagnement et à animer des retraites. En tant que communauté, nous avons envers lui une dette d'amitié spirituelle profonde. Jeff est arrivé au Zen vers 1970. Alors qu'il était engagé dans des études universitaires en histoire des religions. Il avait étudié le Zen et sa philosophie, mais il comprit rapidement que toutes les connaissances qu'il possédait ne pourraient jamais l'amener à résoudre la grande question de la vie et mort qui est au cœur du Zen. Il commença donc à pratiquer. En 1976, il connut un premier éveil lors d'une retraite à Hawaï avec Robert Aitken, l'un des grands maîtres américains du Zen contemporain. Sa pratique restait cependant immature et instable. C'est pourquoi en 1979, à l'âge de 27 ans, il quitta les États-Unis pour se rendre au Japon et se rapprocher des sources du Zen. Un an plus tard, il rencontra au monastère Zen de Tofukuji à Kyoto, Keido Fukushima, l'un des successeurs du célèbre maître Zen, Zenki Shibayama. Jeff étudia et pratiqua le Zen auprès de lui pendant plus de 25 ans. Jeff n'a jamais souhaité devenir moine et son maître a respecté son désir. Il pratiquait auprès des moines de Tofukuji en tant que laïc. Au fil des années, il épousa Fusako, que plusieurs parmi vous avaient pu rencontrer en juin dernier lors de la retraite à l'ermitage Sainte-Croix. Ils ont un fils, Evan, qui est aujourd'hui adulte. Sur le plan professionnel, Jeff a enseigné jusqu'à récemment au département des études internationales de l'université Hanazono à Kyoto, qui est affiliée à l'école du Zen Rinzai. Et sa propre vie montre bien comment la pratique soutenue du Zen peut trouver sa place au cœur même d'une vie professionnelle et familiale active. À l'époque, Jeff arrivait au monastère à 3 heures du matin pour méditer avec les moines. Il se rendait ensuite au travail, puis retournait au monastère en soirée. Il revenait à la maison vers 23 heures et lui et Fusako trouvaient encore le temps d'aller passer une petite heure dans une maison de thé voisine de leur domicile pour travailler ensemble sur des traductions. Jeff est l'un des très rares occidentaux à avoir complété l'étude des Koans dans la tradition du Zen Rinzai. Au fil des décennies, son maître l'invita à l'accompagner en tant qu'assistant et interprète dans les retraites qu'il animait à l'extérieur du Japon, en Europe et aux États-Unis. C'est ainsi que Jeff entre en contact avec ceux et celles qui encore aujourd'hui pratiquent avec lui dans ces pays. Son maître le désigna enfin comme son successeur laïque et lui confia la charge de poursuivre son enseignement à l'international. C'est alors quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire du Zen Rinzai au Japon, qu'un maître de la lignée délègue à un laïc américain de surcroît le droit d'enseigner le zen en dehors d'un monastère. Pour cette raison même, Jeff ne pourra jamais être reconnu comme un maître dans la tradition du Zen Rinzai. Cet honneur est en effet réservé aux seuls moines de la lignée. Comme le dit Jeff avec un sourire et avec le plus grand respect pour la valeur du travail qui est fait dans les monastères du Zen Rinzai au Japon, il devra se contenter d'aider les autres à s'ouvrir à ce qui se trouve déjà au plus profond de leur cœur. Mais il le fera à l'air libre, sans être confiné aux murs d'un monastère zen ou aux exigences d'une tradition particulière. En 2001, Jeff a créé un petit ermitage à Kyoto, le Rokoan, où il accueille tous ceux et celles qui veulent poursuivre auprès de lui une pratique soutenue du zazen. Plusieurs membres de notre communauté ont déjà eu le privilège de s'y rendre. Jeff est aujourd'hui âgé de 71 ans. Il anime toujours des retraites en Europe et aux États-Unis, en plus de diriger en ligne un groupe d'études des textes bouddhistes et d'offrir des rencontres virtuelles en one-on-one à ses étudiants étrangers. Le 1er mars 2017, mandaté par le conseil d'administration du centre, je lui ai écrit pour la première fois. Dans cette lettre, je lui demandais s'il lui serait possible de venir animer une retraite au Centre Zen de Montréal en 2018, lui expliquant que notre maître, Albert Lowe, était décédé en 2016 et que notre communauté était depuis lors privée du support et de l'inspiration que peut procurer la présence d'un enseignant et d'un guide. Nous espérons que ces premiers mots seront des premiers pas entre nous. C'étaient là les premiers mots de cette lettre. Jeff nous répondit quelques jours plus tard. Je n'ai pas eu le privilège de rencontrer Albert Lowe en personne, mais je me sens profondément lié à lui depuis longtemps. Si votre communauté le souhaite, ce sera un honneur pour moi d'animer une retraite au Centre Zen de Montréal l'an prochain. Permettez-moi de me répéter. En tant que communauté, nous avons une dette d'amitié spirituelle profonde envers Jeff. Et nous continuons à espérer qu'il reviendra un jour animer d'autres retraites dans notre zendo. Revenons maintenant à la question que lui pose son interlocuteur. J'ai au fond de mon esprit, dit-il, l'idée qu'après l'éveil, tous nos problèmes psychologiques sont résolus. Est-ce exact ou n'est-ce qu'une autre illusion? Jeff lui répond alors, « Il y a une histoire au sujet du Bouddha qui pourra peut-être nous aider ici. C'est l'histoire d'une femme indienne d'origine modeste que l'on avait mariée à un jeune homme d'une famille riche. Les années passaient, mais l'épouse n'était toujours pas acceptée ou respectée par sa belle famille. Un jour, cependant, elle donna naissance à un fils et tout changea. Sa belle famille l'accepta sans réserve et elle se sentit enfin membre de la famille de son époux. Elle put s'épanouir en tant que mère et en tant qu'épouse et se sentit enfin heureuse. Cependant, quelques années plus tard, l'enfant mourut. La mère se sentit alors tellement désemparée qu'elle s'accrocha au corps inerte de son fils et refusa de s'en séparer. Elle faisait le tour de son village, portant le corps de son enfant, demandant à tous ceux et celles qu'elle croisait, « S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi des médicaments pour mon enfant. » Un jour, quelqu'un lui dit qu'un grand sage, le Bouddha Gautama, se trouvait dans le village voisin. « Allez le voir. Peut-être a-t-il des médicaments. Il pourra peut-être vous aider. » Folle d'espoir, la mère y alla immédiatement. Elle rencontra le Bouddha et le supplia de lui donner des médicaments pour son enfant. Que feriez-vous? S'il s'en était tenu au texte bouddhiste, Gautama aurait bien pu dire « Toutes les choses sont impermanentes. Sujette à la naissance et mort. Laissez votre enfant partir, femme. Laissez-le partir. » Mais il ne le fit pas. Il choisit plutôt de lui mentir. Il dit à la jeune mère qu'il préparerait le médicament. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une graine de moutarde. Mais cette graine de moutarde devait provenir d'une famille qui n'avait jamais connu la mort. La jeune mère était ravie. Elle pourrait enfin sauver son enfant. À cette époque, les graines de moutarde étaient très courantes, comme le sel et le poivre aujourd'hui. La mère, portant toujours son enfant dans ses bras, court donc vers la première ville, frappe à la première porte qu'elle rencontre, et demande si elle peut avoir des graines de moutarde. « Bien sûr, lui dit-on. Mais dites-moi, quelqu'un est-il déjà mort dans votre famille ?» demande-t-elle alors. Maintenant, elle doit écouter les autres, lui parler de la mort de leurs proches. Elle se rend alors dans une autre maison, puis dans une autre et encore une autre. Et partout, elle entend les gens lui raconter la mort de leurs proches. Voyez-vous la grande perspicacité psychologique de Gautama Buddha? Il n'a pas nié la souffrance et la profonde angoisse de la mère devant la mort de son enfant bien-aimé. Tout au contraire, il a aidé la jeune mère à s'y ouvrir en découvrant de première main qu'il n'y a pas un seul foyer où personne n'est décédé. La mère a pu s'ouvrir à la source profonde de sa souffrance, qui n'est ni un concept abstrait, ni un enseignement, mais bien la réalité de chacun d'entre nous. Elle a ensuite amené son enfant au bûcher funéraire et est retournée auprès du Bouddha. La tradition veut qu'elle se soit finalement éveillée et ait continué à guider d'autres femmes dans le besoin. Jeff achève ainsi son histoire. Dans celle-ci, le Bouddha n'a pas nié la souffrance et l'angoisse de la mère. Il l'a plutôt aidé à s'y ouvrir et à en découvrir la source profonde. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Les circonstances de notre souffrance peuvent évidemment être très différentes. Ici, la mère a vu son enfant mourir. Mais nous souffrons tous. La maladie, le vieillissement et la mort sont nos compagnons de route. Et nous portons en nous toute l'ignorance, la convoitise et la violence du monde. Un verset bouddhiste tiré du Dhammapada nous le rappelle. Nulle part dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni au fond d'une profonde grotte, l'on ne peut trouver une place sur terre où, y demeurant, l'on ne puisse être vaincu par la mort. Vaincu par la mort, ou touché par la souffrance. Lorsque vous êtes en zazen, ne niez pas l'insécurité que vous ressentez. Ne cherchez pas à vous en défaire d'aucune façon, en la repoussant ou en tentant de l'éviter. L'insécurité est la condition naturelle des êtres humains, nous dit M. Lo, et elle vient du sentiment de grande vulnérabilité que nous avons tous et toutes, comme si nous étions sur les bords d'un gouffre, prêts à nous engloutir. C'est cette insécurité qui a poussé le Bouddha à entreprendre son grand pèlerinage spirituel. Lorsque l'interlocuteur de Jeff lui demande s'il est exact qu'après l'éveil, tous nos problèmes psychologiques sont résolus, il cherche à s'évader. Il espère pouvoir échapper à l'insécurité qui l'enserre et il veut utiliser la pratique du zen pour y arriver. Mais on le voit bien dans la question qu'il pose, il pressent qu'il s'agit là d'une illusion. Dans son livre « Se connaître, c'est s'oublier », M. Lo écrit « Le seul fait de s'ouvrir, de laisser ce qui est là, quoi que ce soit, demeurer dans la lumière de la présence, lui enlève son pouvoir de nuire. Nous devons nous ouvrir de cette façon, sans aucun jugement, aucun besoin d'intégrer, de changer ou de faire quelque chose à propos de ce qui surgit. » C'est une pratique très difficile, surtout quand on vit une profonde anxiété, une rage violente, un sentiment d'échec ou celui d'avoir gâché sa vie. Être ouvert à ce qui est, souhaiter être chez soi, en soi-même, souhaiter ne faire qu'un, être en harmonie, peut représenter pour la plupart des gens un aspect extrêmement important de leur pratique. Fin de citation. Un koan le dit avec d'autres mots. Un moine demanda à Maître Tozan, « Comment échapper à la chaleur et au froid? Comment les éviter? » Le maître répondit, « Pourquoi ne pas aller là où il n'y a ni chaleur ni froid? » Le moine demanda alors, « Où vais-je trouver cet endroit? » Et le maître lui dit, « En hiver, lorsque le froid est là, tremble de tout ton corps. En été, lorsque la chaleur t'accable, transpire. » Lorsqu'une personne s'éveille, l'illusion du moi est défaite à sa racine. Mais cela ne signifie pas que nous devenions psychologiquement des êtres parfaits. Nous restons humains. Et nous ne pouvons échapper si facilement à tous nos conditionnements passés. Nous devons toujours trembler de tout notre corps lorsque le froid est là et transpirer lorsque la chaleur nous accable, comme dit le maître. Si quelqu'un est véritablement éveillé et a réalisé l'essentiel, alors il n'est plus lié à la pratique, disait le maître Issan. Mais normalement, même si grâce à la pratique, l'esprit originel a été éveillé, de sorte que l'on est instantanément éveillé à sa vraie nature, l'inertie de l'habitude demeure toujours. C'est pourquoi il nous faut continuer à pratiquer, afin de couper complètement le courant de nos propres idées et opinions habituelles. Celles-ci ne se tarissent pas d'un seul coup, mais l'éveil nous aide à percevoir plus clairement que jamais auparavant la souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes et celle que nous imposons aux autres, du fait des réactions habituelles de notre personnalité. M. Lo racontait souvent qu'après son premier éveil, il passait une grande partie de son temps à dire « Je suis désolé, si désolé. » Jeff raconte qu'il a lui-même lutté pendant des années avec l'idée que l'éveil allait le libérer de tous ses problèmes psychologiques. Il y a plus de 40 ans, quand je suis arrivé au Japon, j'étais désespéré. Je n'étais pas intéressé par ce que je considérais comme des problèmes psychologiques mineurs. J'y allais pour connaître le grand éveil dont parlaient les maîtres zen. J'allais m'éveiller et d'une façon ou d'une autre, toutes mes difficultés allaient disparaître, s'effacer de ma vie. Ou alors je les verrais comme vides, sans réalité. L'éveil allait m'en libérer. Après des années d'une pratique difficile, j'ai réalisé clairement qu'un engagement total envers l'éveil est nécessaire sur la voie. Mais j'ai vu tout aussi clairement que cela ne peut pas se faire au détriment de nos autres problèmes. Il ne sert à rien de vouloir contourner nos problèmes psychologiques en optant pour une sorte d'illumination imaginaire. Il ne sert à rien de tenter de fuir ce qui est directement sous nos pieds. Nous devons pratiquer avec ce qui est immédiatement présent en nous. Tout le reste n'est que du rêve. Si vous ne pouvez pas vous donner entièrement sur la voie spirituelle, à cause de certains problèmes psychologiques, alors n'hésitez pas à consulter, surtout si des traumatismes profonds vous accablent. La psychothérapie s'intéresse au contenu de l'esprit. Le zen s'intéresse à l'esprit lui-même. Ce sont là des voies complémentaires, mais très différentes. Il ne sert à rien de courir après un éveil imaginaire en espérant naïvement échapper à notre vie psychologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de pratiquer avec honnêteté et humilité avec ce qui est immédiatement présent en nous. Donc un jour, quelqu'un demanda à Jeff, « J'ai au fond de mon esprit l'idée qu'après l'éveil, tous nos problèmes psychologiques sont résolus. Est-ce exact ou n'est-ce qu'une autre illusion ?